Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Sur le chemin de Saint-Jacques, notre auteur déambule avec joie en Cantabrie à San Vicente de la Barquera. Pour la halte du soir, il pénètre dans une albergue privée. Par la porte ouverte d'une cuisine, entraient des odeurs écœurantes de tambouille. Deux ou trois pèlerins d'origine diverse, principalement allemands, traversèrent la salle pendant que j'attendais debout que paraisse l'hospitalier. Mes congénères teutons me saluèrent aimablement et, pour créer entre nous une complicité de bon aloi, humèrent ostensiblement l'air chargé de graillons en émettant des « gourmands ». Leur indulgence me stupéfia et surtout me fit comprendre que ce qui cuisait n'était pas destiné aux chiens attachés à l'entrée du garage, mais bel et bien aux pèlerins. Un jeune garçon sortit à cet instant de l'antre de Gargamel et se dirigea vers moi. Ses premiers mots furent pour me demander 5 €, le prix de la nuitée, et ma crédentiale. Il me regardait avec un air goguenard pendant que je fouillais dans mon sac. Son attitude me fit penser au héros d'un roman américain horrible et puissant appelé Mandingo. Il met en scène un père et un fils qui tiennent une ferme d'élevage humain dans le sud américain. Leur bétail est constitué d'esclaves qu'ils engraissent et font se reproduire pour les vendre à des planteurs. Le fils, malgré son jeune âge, était accoutumé à traiter ces êtres humains comme des bêtes, à les enchaîner et à les fouetter sans ressentir la moindre empathie. Je me demandais un instant si mon jeune geôlier n'allait pas me regarder les dents. Une fois mon dû payé, le gamin m'emmena dans un boyau sombre et ouvrit une porte. Dans ce qui avait dû jadis être un garage ou une cave, des lits superposés avaient été disposés, si près les uns des autres qu'il était à peine possible de circuler entre eux. Poussant sans ménagement bataves et coréens en liquette, le jeune tenancier me conduisit jusqu'à un lit qu'il désigna du doigt. Puis il tourna les talons et me laissa en plan. Avec ses lampes de faible puissance, son plafond bas sillonné de tuyaux et son crépi jaunâtre, le lieu me faisait irrésistiblement penser au PTT building de Sarajevo pendant la guerre de Bosnie. Occupé par les casques bleus de diverses nationalités, ce bâtiment, découpé par des cloisons provisoires, était le royaume du lit picot, de la douche de campagne et de la ration de combat. Pour être tout à fait honnête, je dois dire que les casques bleus étaient mieux installés. Je posai mon sac sur le matelas qui m'avait été attribué. Il y dessina un petit berceau, me laissant imaginer jusqu'où le frêle sommier se creuserait sous mon corps. Le lit du dessous était occupé par un cycliste qui, assis sur le rebord, s'employait pour l'heure à masser ses durillons à l'aide d'une pommade. Il était difficile de démêler ce qui sentait le plus mauvais, des pieds du vélocipédiste ou de longs gants marrons dont il les enduisait. L'homme me salua d'un « bon camino », assez déplacé puisque pour l'heure le seul chemin qui me restait à parcourir était celui qui me mènerait au matelas superposé. À certaines tonalités nasales de l'individu, je formulais la double hypothèse qu'il était allemand, ce qui m'était égal, mais surtout qu'il appartenait à l'immense confrérie sans frontières des ronfleurs. Je décidai de mettre au moins mon séjour dans cette auberge à profit pour prendre une douche. Les sanitaires étaient dissimulés dans un autre recoin du bâtiment, guère mieux éclairé. Pour éviter que les pèlerins ne se livrent à des excès de consommation d'eau, les robinets étaient remplacés par des poussoirs. En appuyant vigoureusement sur ces boutons métalliques, ce qui devenait impossible dès qu'on avait du savon sur les mains, on déclenchait une brève cataracte d'eau tiède, aussitôt tarie. Jamais je n'avais vu un dispositif expérimental aussi sophistiqué pour générer artificiellement des pneumonies. Par bonheur, en quelques minutes de détention, j'avais déjà acquis l'esprit frondeur de tous les prisonniers et je mis au point un système pour bloquer le bouton poussoir à l'aide d'un coton-tige coupé en biseau. Je vous donne le truc à tout hasard si le destin devait vous conduire à de telles extrémités. Lavé, rasé, les dents propres, je trouvais l'énergie suffisante pour envisager l'évasion. Je me rhabillais et allais dans la grande salle tenter de récupérer ma crédentiale. Ce carnet était désormais plein de précieux tampons et j'en étais fière. À mesure que l'on avance sur le chemin, nourrir ce précieux document devient presque une fin en soi. Il n'était pas question que je l'abandonne dans ma fuite. Quand j'entrai dans la salle, elle me parut vaste et claire en comparaison des boyaux obscurs dont je sortais. Au bout de la grande table trônait un homme d'âge mûr, l'œil vif, l'air austère. Je reconnus le père du jeune garçon qui m'avait accueilli. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Par son attitude, l'homme signifiait assez qu'il était souverain en ce territoire. Quiconque y entrait déposait sa volonté avec ses chaussures et devait se prêter au bon vouloir du gourou. Il m'interrogea dans plusieurs langues, tout en sachant que j'étais français car il tenait en main ma crédentiale. Je compris qu'il s'agissait de montrer que son empire, tel celui d'Alexandre, s'étendait jusqu'aux extrémités de la terre et que, en un mot, il en avait vu d'autres. « Parisien ?» me demanda-t-il enfin. Je ne pouvais que reconnaître l'évidence, mon adresse était écrite en gros sur la crédentiale. « J'ai vécu à Paris, moi aussi, dans le temps, » me confia-t-il sans me quitter des yeux, « à Passy. » C'est un beau quartier, commentai-je assez niaisement. Un quartier de gens riches. Mais moi, je ne l'étais pas. Je vivais dans une chambre de bonne. J'allais répondre pour garder une contenance. Vous deviez avoir une belle vue. Mais je ravalais mes réflexions sur le sixième étage sans ascenseur, sentant vaguement qu'il pourrait y voir de l'ironie. Vous, vous habitez un beau quartier aussi, poursuivit le seul maître après Dieu. Mais sûrement pas dans une chambre de bonne. Je me dandinais d'un pied sur l'autre, la situation était plus critique que je ne l'avais craint. Visiblement, le grand Manitou du lieu ne pratiquait pas la discrétion en usage chez les pèlerins. Il voulait tout savoir et l'interrogatoire, s'il se prolongeait, risquait de me conduire à avouer des fautes qui ne me seraient pas pardonnées. J'imaginais l'effet que des mots tels que médecin ou écrivain pourraient produire. Je pensais à mon grand-père lors de son arrivée en déportation en 1943. Se faire bien voir de ses geôliers était pour lui une question de vie ou de mort. Cette comparaison me fit revenir à moi et je mesurai toute la différence qui séparait ces deux situations. Mon grand-père était prisonnier et c'était la guerre. J'étais encore libre, que je sache. Et à la différence de Sarajevo, San Vicente de la Barquera n'était pas bombardé. Un sursaut de fierté me fit reprendre mes esprits. Je voudrais récupérer ma crédentiale, s'il vous plaît. L'homme n'avait pas l'habitude qu'on lui résiste visiblement. Ses pensionnaires non seulement se soumettaient à ses règles, mais paraissaient en tirer un certain plaisir. Je connais des bistrots à Paris où des messieurs par ailleurs autoritaires et habitués à commander viennent s'adonner à l'heure du déjeuner au plaisir masochiste de se faire rudoyer par un patron insolent et grossier. Les coups de fouet moraux qu'il leur assène pendant le repas semblent les revigorer et leur donner une énergie nouvelle pour tourmenter leurs propres subordonnés l'après-midi. Sans doute parce que je n'aime ni obéir ni commander, ce type de jouissance m'est étranger et le gourou du sous-sol dut le percevoir. Il tenta une manœuvre dilatoire. « Ne soyez pas pressé, » dit-il en donnant un coup de menton en direction d'un registre sur lequel était déposée une pile de crédentiales. « On vous la rendra quand elle sera enregistrée ?» Cette pauvre tentative de me retenir était vouée à l'échec et il le savait. Chacun d'entre nous observa dans la suite les règles tacites d'une chorégraphie destinée à éviter tout incident. Je retournai jusqu'au dortoir et récupérai mon sac à dos. Le responsable de l'auberge avait un instant quitté son trône quand je traversai la grande salle et elle était vide. En un instant, je repris ma crédentiale que le tenancier avait posée avec les autres et me dirigeai vers le local à chaussures. Le temps de les lacer à la hâte et j'étais dehors.
C'était « Immortelle randonnée » de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.